Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Benmadi et je suis très heureuse de partager cette chronique avec vous. Donc je suis thérapeute et ma spécialité c'est les traumas. Cette émission vous est dédiée, donc elle s'appelle Parlons-en, tout ce que vous osez dire mais surtout ce que vous n'osez pas. Je réponds à toutes vos questions, petits et grands, parents, grands-parents, et vous retrouverez tous les liens pour poser des questions ou déposer vos témoignages sur le podcast. La parole est à vous, donc on ouvre cette saison 2025 avec un sujet, et pas des moindres, le harcèlement. La question, la voilà. Donc en fait, c'est en maternelle, lors d'une de mes interventions, qu'une jeune fille vient me voir et me demande. Mais madame, c'est quoi vraiment la limite pour dire que c'est du harcèlement parce que moi, des fois, juste on m'embête. Chez les très jeunes enfants, il faut savoir que le taux de harcèlement augmente dès la maternelle. Alors c'est vrai, comment différencier des chamailleries d'enfants, des disputes, du harcèlement? Le harcèlement, il est défini par une personne, ou souvent un groupe même, qui vient régulièrement t'embêter. Et la notion de répétition est importante, c'est-à-dire qu'il vient plusieurs fois. Ce sont des gestes, des mots, des moqueries sur toi qui te blessent et qui te font beaucoup de peine. L'agresseur, il peut te taper, te voler, se moquer, même dire aux autres de ne pas jouer avec toi. Du coup, tu te retrouves seul dans la cour sans copain. Côté adulte, vous l'aurez bien compris, ce qu'il faut retenir sur le mot harcèlement, c'est qu'il peut être physique ou psychologique et qu'en fait, ce sont des actes répétés, mais vraiment avec l'intention de nuire volontairement. Donc regardez, c'est bien, mais comment observer les signes ? Alors vous pouvez être face à un enfant hyper ouvert, à l'aise avec ce qu'il subit, car en fait il ne se rend absolument pas compte de la gravité des faits. Vous remarquez un enfant qui d'un coup il est dans la bande, puis d'un coup il est rejeté. Alors là attention, c'est que dans cette bande, il y a quand même une relation de pouvoir qui s'est installée. Souvent par un meneur, un petit manipulateur, et parfois selon l'âge, il y a même un peu de perversion qui peut s'installer. Vous pouvez aussi remarquer que l'enfant de lui-même est en fuite en fait. Il se sépare lui-même et change de copain de façon inattendue. Il a quand même un petit instinct de survie et il se protège et s'éloigne de sa peur. L'enfant change de comportement. Il s'isole de lui-même, reste sur un banc ou au contraire, il reste très près de vous pendant la récréation. C'est un enfant qui peut vous sembler agité pendant la classe et pourtant, il ne veut absolument pas aller en récré. Soyez aussi attentifs au discours des parents quand ils vous déposent les enfants le matin. Ils peuvent vous parler de cauchemars soudains, que l'enfant est anxieux le matin, qu'il a des maux de ventre, des migraines dès qu'il se réveille. Et puis vous sentez quand même que de plus en plus, il n'a plus trop envie de venir à l'école. Et on a remarqué souvent que sur la pause du repas, les enfants qui subissent du harcèlement peuvent vouloir rentrer chez eux et demandent aux animateurs périscolaires pour des raisons XY de téléphoner aux parents pour rentrer à la maison. Alors quand on sait tout ça, c'est bien, mais comment faire avec tout ça justement? On va s'intéresser un petit peu côté parents et enseignants. Avoir une écoute active. Vraiment être attentif à ce qu'il vous dit. Vous créez un instant avec lui. Paraître détendu. Alors ne lui laissez pas paraître votre inquiétude ni vos doutes, voire même votre colère évidemment si vous êtes parent. Si l'enfant vous s'est tendu, il ne vous donnera aucune information. Alors, essayez les questions ouvertes, ce n'est pas facile, mais plutôt « raconte-moi, j'ai l'impression que ça ne va pas ». Asseyez-vous tous les deux au calme, regardez-le dans les yeux. Prévoyez un vrai temps d'échange et d'écoute avec lui. Commencez par des questions ouvertes. Qu'est-ce que? Pourquoi? Comment? C'est un exercice pas facile, mais ces questions vont l'inviter à échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à reformuler ce qu'il vous dit. Parlez-lui de respect. Alors du sien, évidemment, mais attention, aussi celui de l'autre. Ne critiquez pas l'agresseur. Comme je vous le disais, l'enfant il peut être complètement fasciné par ce copain. Par contre, expliquez-lui l'importance de la situation et de l'escalade possible de cette violence. Il est aussi important de recueillir son avis à lui pour lui faire prendre conscience des choses. Mais toi, que penses-tu de cette situation ? Lui faire comprendre que vous allez agir pour l'aider parce que vous êtes responsable en fait en tant qu'adulte. Vous êtes un protecteur. Après tout, c'est un rôle d'adulte. Informer n'est pas rapportée. Et surtout, dites-lui bravo d'en avoir parlé. Alors, après cela, ne réglez pas le problème tout seul. Aidez-vous de vos collègues, faites une réunion, ouvrez les discussions en classe, instaurez des ateliers d'empathie. Pour les parents et grands-parents, on observe souvent des changements aussi à la maison. L'enfant va s'isoler plus fréquemment, il reste plus longtemps dans sa chambre. Il vous raconte moins ses journées et vous pouvez commencer à percevoir des petits signes symptomatiques, c'est-à-dire du comportement qu'il n'avait pas avant. Vous le trouvez un petit peu plus angoissé, un petit peu plus stressé le dimanche soir à l'idée de commencer la semaine. Les migraines, parfois même jusqu'au vomissement, une perte d'appétit et puis physiquement évidemment des bleus, des hématomes. C'est un enfant qui soudainement peut pleurer facilement, vous semblez sensible. Parce qu'en fait, va se passer chez lui une perte d'estime de lui-même. Et même peut-être parfois, jusqu'à ne plus vouloir aller à ses loisirs extrascolaires. Chez les ados, c'est plus difficile. Faites attention, évidemment, on les observe moins dans la salle de bain, mais pourtant, il peut exister de l'automutilation. Donc sur les bras, les jambes, vous pouvez observer des scarifications. Donc les réactions. Nos paniques. Surtout, posez la question avec calme. Et j'insiste, posez la question. Est-ce qu'on t'embête à l'école de façon régulière? Est-ce qu'on te harcèle? Si c'est le cas, paniquez pas. Dès le lendemain, prévenez la CPE, l'équipe pédagogique. Demandez de toute urgence un rendez-vous. Côté thérapeute, voilà comment je vois les choses. Le harceleur a une mécanique. Plus les victimes sont jeunes, moins ils ont conscience d'être harcelés. Souvent, comme je vous le disais, la victime idolâtre son agresseur. L'enfant, il veut intégrer une bande, il veut avoir des amis. Il ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'il subit. Là, il y a la prudence à avoir en tant que parent et équipe enseignant. Faut observer, faut communiquer. Faut essayer de lier un lien de confiance avec l'enfant victime. C'est primordial si vous avez un doute. Alors, à savoir pour les parents que lorsqu'il y a harcèlement, au sein d'un établissement scolaire, il y a tout un protocole qui s'engage. La direction, l'infirmerie, le psy scolaire, le médecin scolaire, voire même la gendarmerie s'il y a dépôt de plainte. Donc c'est toute une équipe qui va mettre en place une protection. En tant que parent, parallèlement à ça, entreprenez rapidement un accompagnement thérapeutique pour votre enfant. Il faut que votre enfant verbalise ses émotions face à cette agression. Si elle n'est pas soignée, elle s'inscrira comme un traumatisme. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Le choc va laisser chez la victime ce que l'on appelle une empreinte traumatique. En fait, c'est comme une trace d'ADN qui reste tout au long de la vie, mais sur le système nerveux. On grandit avec des émotions qui n'ont pas été verbalisées. La plupart du temps, l'anxiété, la honte, la colère, la culpabilité, l'injustice, la peur, la tristesse. Le harcèlement, ça soulève tout ça. Alors oui, on avance, on grandit car on a quand même un cerveau super bien fait qui va venir adoucir nos émotions non verbalisées et les enfouir du mieux qu'il peut. Parfois même jusqu'à l'amnésie traumatique. C'est ce qu'on appelle l'oubli en fait. Dans mon cabinet, j'ai des adultes de 20 à 40 ans qui viennent suite à un harcèlement subi dans l'enfance et qui soudainement, les émotions, les douleurs s'ouvrent suite à un événement déclencheur aujourd'hui. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour débuter un accompagnement thérapeutique, venir cicatriser une plaie et d'en guérir. Pour finir, je voudrais vous donner mon petit coup de cœur et mon petit coup de gueule. Alors mon petit flop, stop au vocabulaire qui minimise l'acte de l'agression. Je vous en prie les équipes pédagogiques, j'entends des termes comme intimideur et intimidé. Non, je le rappelle, c'est harceleur et harcelé. Comment voulez-vous qu'un agresseur percute qu'il est harceleur et qu'un enfant victime se dise harcelé si on continue de parler seulement d'intimidation? Donc il faut employer les bons mots. Il faut sortir de ce tabou sociétal dans lequel trop nombreux se cachent. On se rappelle qu'un enfant sur 6 subit un harcèlement scolaire. Dans mon cabinet, j'ai une explosion de demandes de déscolarisation suite à des harcèlements non gérés par les autorités. Mon gros coup de cœur, et on finira là-dessus, merci les copains, les camarades, les témoins qui prennent par la main les victimes, les amis et les accompagnent pour parler au CPE ou à l'infirmière scolaire. Bravo à vous, vous protégez vos copains et vous les sortez d'une situation qui les fait souffrir et dont ils sont prisonniers. Parlons-en, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. J'espère vous avoir éclairé sur ce vaste sujet. Vous retrouverez donc toutes les infos, les liens, les posts sur le podcast de studiozef.fr. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Cette chronique, c'est la vôtre. On finit avec cette phrase qui me tient à cœur. Nous ne sommes pas des sauveurs, mais nous pouvons faire en sorte que cela dure le moins longtemps possible. À bientôt.